My fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart.
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
Pop Flash, un mercredi sur deux à 19h sur Radio G. Sur Radio G, vous écoutez Pop Flash et il n'y a pas eu d'émission il y a deux semaines, on est vraiment désolé, on a eu un petit imprévu, rien de très grave. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on est là, il fait beau, il fait chaud et on va pas se mentir, je pense qu'on crève un peu tous de chaud. Mais vous avez passé comment cette semaine? Parce que personnellement, j'étais dans le noir en slip. Est-ce que je suis pas censé dire ça? Oupsie. Mais c'est pas le plus important. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes compagnons de toujours. De mon slip aussi, oui, en effet. Mais du coup, je suis accompagné de Claire. Coucou Claire.
Hello.
Et de Mel.
Coucou.
Et du coup, est-ce que vous allez bien?
Écoute, maintenant que la température n'est plus un danger perpétuel de mort, ça va à peu près mieux.
Voyons, danger de mort, vous savez. Mettez un t-shirt, hein. Ouvrez la fenêtre, arrêtez de chouiner. Oh putain, oh, juste de dire ça, j'ai envie de vomir. C'est vraiment quelqu'un qui a dit ça, juste fun fact.
Ah, bah écoute, moi j'étais juste en mode 30 minutes pour aller au boulot à pied, c'est chaud un peu. Et ils m'ont dit, prends le bus, toi, mais il n'est pas climatisé le bus.
C'est encore pire.
Le bus était atroce.
Quoique j'adore sentir l'odeur de sueur des gens à côté de moi, donc évidemment
miam,
ça
miam.
Va.
Miam miam miam, allez bien dans les endroits les plus humides. Non, blague, trêve de plaisanterie, trêve de blague. Aujourd'hui, trois chroniques, peut-être trois et demi. On va commencer tout de suite avec une chronique qui sera du coup une chronique jeu vidéo qui exceptionnellement sera présentée par ma personne parce que Mel s'est défilée.
Mel.
On suivra tout de suite avec Mel, tu vas parler de quoi aujourd'hui?
On va parler de bibliothèque virtuelle.
Ok, très bien. Et du coup, on va finir par Claire. Claire, de quoi tu vas parler?
Petite actu d'hier, moi finalement, mais très sympa sur Obi, qui est une société qui utilise probablement de l'IA.
Ouais. Ah, encore. Mais voilà, du coup, on espère que ça va vous plaire et sans plus tarder, on va débuter. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le milieu du jeu vidéo? On va parler des dernières sorties, on va parler de un petit drama qu'il y a eu avec une grosse compagnie et enfin, on parlera d'un jeu qui personnellement m'a marqué, qui n'est pas du tout récent, mais c'est pas grave. Donc, dans un premier temps, donc, côté blockbuster triple A, on a du coup 007 First Light qui a débarqué. C'est par les créateurs de Hitman, du coup IO Interactive. Alors, ce sont des gens qui sont très bons pour faire des jeux d'espionnage. Les Hitman sont très très bons. Alors, il faut savoir que 007 a eu un très bon retour, mais il est aussi décrié parce que, en gros, ils font un peu toujours la même chose, ce qui fait qu'en fait, on a plus l'impression de jouer en Hitman avec un skin de 007.
C'est marrant, ils font la même critique sur les films.
Ouais, c'est
comme c'est bizarre.
Étrange. À côté de ça, on a la fin de Bungie et de Destiny 2. Alors, Destiny 2, personnellement, je n'y ai jamais joué, mais je sais que c'est un jeu que beaucoup de personnes ont adoré. Il faut savoir que, du coup, c'est un jeu où il fallait mettre extrêmement d'argent pour être bon, et qu'il n'y avait pas du tout, comment on pourrait dire ça, noob friendly, qui fait que en fait il n'y a pas très longtemps, ça s'est passé ce mois-ci, Sony s'est rendu compte qu'il y avait une perte de valeur de 765 millions de dollars suite au rachat du studio, ce qui a comme conséquence immédiate que le support live, du coup tout ce qui va être mis à jour de contenu de Destiny 2 est définitivement arrêté. C'est une vraie page qui se tourne pour tout ce qui est jeu service, parce que c'est un peu un des piliers des jeux service et vu qu'on parle tout de suite de jeux service, on va tout de suite parler aussi de la deuxième news. Sega fait machine arrière sur tout ce qui était son projet Super Game, qui était un projet qui avait pour but de créer beaucoup, beaucoup de jeux, justement, de jeux service avec leur licence, qui permettrait d'avoir une espèce de présence constante et qui permettait de, comment dire, fidéliser les joueurs. Il y a eu un ras-le-bol des jeux service, c'est pas si longtemps que ça, ce qui fait qu'en fait, il y a eu une véritable levée de bouclier et Sega a tout simplement vu la levée de bouclier, ils ont probablement eu un peu peur et ils ont complètement fait machine arrière. On parlait quand même du fait qu'ils avaient un projet sur Crazy Taxi, sur plein d'autres en fait licences qu'ils avaient, qui n'étaient plus sorties depuis très très longtemps. Et du coup, ils ont fait machine arrière, ils ont dit qu'ils laissaient tomber tout ça, que en fait, au cours de la première année, les résultats en termes de chiffres étaient pas très très bons. Et que
oui, ils sont tellement pas bons qu'ils s'en étouffent, ouais. C'est vous dire.
Et que du coup, ils allaient repartir sur tout ce qui était plutôt jeu solo. Donc, on va y avoir un nouveau Sonic, on va y avoir tout ce qui est plutôt lié du coup à Sega et qui font en règle générale qui est très bon. Ouais. Dernière chose, et là du coup, on va parler d'un petit drama. Alors, on va d'abord parler de drama. Il faut savoir qu'il y a environ, il y a quelques semaines maintenant, il y a eu une interview d'un des directeurs de Xbox, qui en gros, quand on lui a posé la question, est-ce que vous allez continuer lors des Xbox, présentations Xbox, de parler du cross-platform et du coup montrer en fait les différents jeux qui sortiront aussi sur Switch, PS5, tout ça. Ce à quoi le mec a dit, oui, nous on trouve ça bien le cross-platform, tout ça. Et en fait, les pro Xbox ont eu un très très gros mouvement de rejet. Parce que il faut savoir que dans les autres compagnies ne font pas du tout ça. En règle générale, en fait, quand t'as un Nintendo direct, c'est un peu que Nintendo et puis les autres compagnies elles vont aller se faire foutre. Pareil pour le PS, je sais pas comment ça s'appelle, mais le PlayStation direct. Et du coup, le fait que Xbox fait ça, ils voient ça un peu comme un côté de, que Xbox est un peu la carpette pour les autres trucs parce que c'est là. Alors personnellement, je peux comprendre que l'impression de vouloir de montrer, d'avoir l'impression que Xbox va être cette, mais d'un autre côté, j'avais plus l'impression que c'était un bon move de la part d'Xbox de montrer qu'en fait ils sont au-dessus de ça et que la guerre des consoles c'est quelque chose qui est un peu vain pour une raison très simple. Xbox a le PC. Donc
oui.
Oui.
Puis surtout si je peux rajouter quelque chose. Ok, ils présentent des choses cross-platform, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas sur Xbox.
Oui.
Ça sera sur Xbox, mais juste que les joueurs d'Xbox pourront jouer avec des gens qui sont sur PC, oui. Switch,
mais
peu
importe. En gros, le truc, c'est le fait
Donc
de dire que...
C'est quoi le drama
visiblement, le fait de présenter pour eux, c'était quelque chose qui faisait... Ouais, ils baissent un peu la tête, c'est pas bien et tout, on fait la carpette. Xbox a un truc qui s'appelle le Xbox Game Pass. Le cross-platform, il est déjà sur tous les trucs. En fait, Xbox est partout.
Ah oui, surtout Xbox n'a pas beaucoup d'exclus. Donc en fait, c'est pas comme s'ils avaient nécessairement le choix. Oui. Ils sont forcément sur d'autres jeux. Donc autant faire en sorte que tu puisses jouer avec ton pote qui a une Switch plutôt que de jouer tout seul comme un gros con, tout simplement parce que genre t'as une entreprise. Ça s'appelle aussi évoluer.
Oui,
c'est le principe que dans les années 90, on faisait pas de cross-platform et tout, on restait chacun bien séparé, mais parce qu'il y avait pas autant de multijoueurs aussi.
Oui, et puis, c'est. On dirait limite que c'est genre, oui.
C'est une guerre d'opinion, quoi.
Moi, c'est le Xbox, et moi, c'est le Switch, et moi, c'est le PlayStation, mais c'est bon, enfin, genre.
De toute façon, c'est une guerre entre personnes qui entre gueux parce que évidemment si vous voulez jouer sur PC. Je rigole évidemment.
Mais en vrai, c'est intéressant parce que tous ces gens qui se sont bloqués parce que tu joues sur console tout le temps et qui ont pas de PC nécessairement, en vrai, c'est une bonne chose hein. Quand tu penses à tous les gens qui jouent à Minecraft genre sur console.
Mais je rigole là-dessus, mais en vrai, oui, non, mais c'est très bien. Si vous avez pas de quoi vous prendre un bon PC, parce qu'un bon PC, ça coûte cher.
Bah, c'est clair.
Vous voulez pas de la RAM, là?
Ouais, genre...
j'en revends à la sortie de la radio.
Combien? On rappelle juste.
Elle est bonne, ma barrette de RAM.
Petite fun fact sur la barrette de RAM. Il faut savoir qu'à une époque, c'était Nvidia qui avait proposé de payer leurs employés, pas avec de l'argent, mais avec des barrettes de RAM. Qui pourrait du coup revendre parce que ça valait tellement cher. D'ailleurs, petit truc que j'avais pas marqué, mais alors c'est un peu politique tout ça, mais ça fait ça aussi. Il faut savoir qu'il y a pas longtemps, Donald Trump a été en Chine avec des
Xbox.
Avec des géants de la tech, notamment le patron des Nvidia, pour alors qu'ils étaient pas invités hein, évidemment, et pour faire des négociations tout ça. Alors moi je trouve ça drôle parce que c'est un peu ironique. Il faut savoir que pendant que le patron d'Nvidia était du coup sur le territoire chinois a interdit l'exportation d'Nvidia sur le territoire chinois parce qu'ils ont commencé à faire eux-mêmes leur propre RAM et leur propre truc que fait Nvidia.
Contre son camp.
C'est vraiment, il a été leur faire un coucou, pourquoi vous êtes méchant?
Non mais vraiment.
C'est pas gentil d'être méchant.
Il y a vraiment le côté où genre, ils ont serré la main du gars, ils étaient en mode tes trucs ne viennent plus sur notre territoire.
Mais est-ce que tu penses que ça va réduire le coût de la rame ou pas?
Oui, parce que du coup.
Moi, ça m'arrangerait. Hein.
Oui, parce qu'il va y avoir des concurrents après.
Si je ne me trompe pas, ça a déjà commencé. Il y a déjà des marques chinoises de rame qui sont en train de. Et de cartes graphiques qui sont en train d'arriver en Europe pour moins cher.
Mais en vrai, c'est pas déconnant parce qu'Nvidia forcément les crée en Chine de toute façon, non?
Oui, bah oui.
Donc, oui, ils récupèrent juste la technologie somehow.
Mais voilà, on va pas parler de politique parce que si on parlait des États-Unis.
Ouais, Chine, ça marche aussi. Hein.
Ouais.
Non, mais.
voilà, c'est
j'ai on pas... parlera à un moment donné de la Chine et des jeux vidéo et de leur utilisation.
Sujet, oui.
Faut qu'on en parle parce que vraiment.
Mais maintenant, j'ai
un truc de fou.
J'ai parlé de drama, j'ai parlé de gros jeux AAA, mais la vérité, c'est qu'on s'en fout un peu. Le plus important, c'est les jeux indés. Du coup, on passe aux parties jeux indés. Et du coup, Mina de Hollower est sorti. C'est, entre guillemets, présenté comme étant le nouveau roi des jeux rétro. C'est par les créateurs de Shovel Knight, donc Yacht Club Game, qui sont des très très bons développeurs de jeux. Et du coup, c'est, ils signent leur petit retour avec un jeu d'action-aventure gothique inspiré des Zelda de leur Game Boy. Le jeu a décroché un 92% sur Metacritic, ce qui est assez historique. Et il faut savoir, j'ai vu les designs. Alors tu joues une petite souris. Et c'est adorable, et c'est trop mignon, et je veux le prendre.
Je pense qu'on va l'acheter juste pour la souris.
Oui. Autre grosse sortie, Paralive est enfin sorti.
Depuis le
21, c'est le concurrent direct au Sim. Il vient de sortir. Alors, les gens soit l'adorent, soit le détestent, mais il y a rarement d'entre deux. Mais elle va peut-être plus en parler que moi.
Non, mais c'est juste que je ne l'ai pas encore acheté, donc je n'ai pas fait de review. Mais je l'achète bientôt. Sachez qu'il est en promotion jusqu'au 1er juin.
Il est en bêta test.
Il est en early access. Ouais. Donc n'oubliez pas que les bugs, le fait qu'il y ait certaines fonctionnalités qui ne sont pas encore là, c'est normal. C'est parce que c'est un early access. Mais il faut savoir que le jeu est en travail, est en construction depuis 2019. Ouais. Il a été reporté
par
plusieurs raisons. Ouais.
15.
C'est une boîte de 15 personnes.
Ouais.
Ils travaillent sur ce jeu-là depuis 2019. Et du coup, faut savoir que du coup, il sera à 40€ à partir du 2 juin. Mais jusqu'au 1er juin, il est à 35€ sur Steam. Et c'est en early access. Mais par contre, chose très très bien, c'est que les mises à jour seront gratuites.
C'est ce que j'allais dire.
Normalement, à vie. Oui. Mises à jour et DLC.
Et gratuit
à vie. Voilà.
Et c'est quelque chose qui. Je sais pas comment ils vont faire pour garder, en fait, après. Ils vont faire d'autres jeux, je suppose.
Non, mais parce qu'en fait, plus loin que ça. Enfin, je veux dire, toi, tu l'achètes, tu y joues, tu donnes envie à ton pote d'y acheter, il y joue.
Oui.
Je veux dire. C'est juste que nous, on est parti dans un mode où maintenant on vend tout, on achète le jeu et après on a toujours des DLC, on est habitué à les payer. Mais en fait, avant c'était pas comme ça.
Et puis surtout, faut pas oublier qu'ils ont une très bonne communication, ils ont une très grosse niche. En fait, ils ont une grosse fandom qui a été très silencieuse pendant longtemps, mais
maintenant,
on l'attendait simplement.
On l'attendait. Et c'est surtout qu'en fait. On a besoin de jeux de simulation comme ça. Et comparé à Inzoï, parce que justement, Inzoï avait fait parler, c'était le nouveau concurrent des Sims, etc. Et au final, ça a été flopesque.
Le jeu était très mauvais.
Le jeu était très mauvais, mais c'est surtout qu'en fait, ce qui a repoussé la plupart des joueurs, c'est qu'il faut un PC de la NASA pour pouvoir y jouer.
C'est vrai.
Quand il est sorti, parce que maintenant les jeux sortent beaucoup en early access parce que les gens ont besoin des jeux tout de suite.
Oui, mais c'est plus économiquement stable pour les créateurs.
Mais le truc, c'est que c'était très vide.
Oui,
et du coup, Paralives, eux, ils travaillent depuis 2019. C'est un early access, mais par contre, t'as déjà deux fois plus de contenu que Inzoï, par exemple.
Il est beaucoup moins buggé.
Oui, il est beaucoup moins buggé. Ouais. Et sincèrement,
comparé aux Sims aussi, d'ailleurs, qui est sorti il y a des années, qui était full buggé, full vide.
Et sachez que vous n'avez pas besoin d'un PC de la NASA.
Oui.
Pour jouer à Paralives.
Et d'un point de vue positif, ce n'est pas possédé non plus par des entreprises extrêmement shady qui font tout pour réduire les droits des LGBT, ce qui n'est pas plus mal.
Oui.
Exactement.
Parce que beaucoup de gens jouent aux Sims un peu par dépit et parce que c'est leur enfance, mais tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative.
C'est ça.
Je ne pense pas que ce soit la fin des Sims, par contre.
Non, mais on en parlera dans la prochaine critique.
Oui. Mais le jeu a l'air bien et personnellement, il me tente aussi deux dernières sorties dont on va parler. Oui, même moi.
pars à live, je te tente.
En vrai, oui, il me tente un peu.
Il a trop activé le mode chippy, il a jamais arrêté.
Voilà. Il manque juste les grands angles, mais je peux pas à cause de l'escalade. D'ailleurs, je me suis fait une cheville, mais ça, on en parlera plus tard.
Tomodachi aussi qui est sorti.
Tomodachi aussi.
Oui.
Incroyable.
Ah, incroyable aussi, mais ça, justement, en fait,
on en avait parlé. On en a parlé, mais c'était la.
Oui, c'est bon, je vois.
J'étais pas là,
mais du coup, le dernier.
J'étais sorti de prison. J'étais en prison à cette époque, donc je voulais pas en parler.
Alors, Jerry avait dit que t'avais des hémorroïdes.
Ah, bah, il va bientôt finir en prison, en tout cas, Jerry.
Si demain, si la semaine aussi, dans deux semaines, je suis pas là, c'est que je suis mort, sachez-le. C'est pas grave, j'aurais bien
vécu.
Ou
que t'as des hémorroïdes.
Ou que j'aurais des hémorroïdes.
Il aura bien vécu.
J'aurais bien vécu. Moi, j'ai plus de 30 ans dans l'autre côté. Alors, les deux dernières sorties, c'est Mouse Pee. Ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler.
Pas du tout.
C'est un. Alors, c'est peut-être pas votre style de jeu, c'est un FPS en noir et blanc dans un style dessin animé des années 1930.
Souris.
Et il est vraiment. Enfin, j'ai pas encore joué, mais il me donne vraiment envie. En gros, tu joues en détective et c'est vraiment genre dans un style années 1930, genre Mickey Mouse des années 1930. Et bon, bah, il a dépassé les 700 000 ventes. C'est pas mal, bravo à lui. C'est fait par un petit studio encore une fois et c'est très cool. Et en dernier, c'est un jeu qui pourrait aussi vous intéresser pour le coup. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Grave Season? Mel, visiblement non. Grave Season, c'est un jeu à la Stardew Valley, tout mignon. C'est une espèce de clone à la Stardew Valley, sauf qu'il y a un petit truc en plus. Il y a un tueur en série qui rôde dans le village et assassine les PNJ si vous menez pas l'enquête.
Oh, trop stylé!
Et j'ai vu les graphismes, putain, c'est beau!
Ouais, ah ouais, c'est beau. Mais ce qui est trop drôle, c'est que je pense que c'est pour les gens qui aiment trop les sidequests comme moi, c'est le pire jeu parce que du coup, t'as grave la flemme de mener l'enquête, t'as trop envie de faire autre chose, genre tes petits plans, des trucs comme ça.
Et t'as envie de faire ton petit jardin, ton petit potager.
Et tu fais ton potager et soudainement, il y a un tueur en série à côté qui tue tes voisins et tu dis, bon, bah mes tomates seront plus rouges que d'habitude.
Vous savez, c'est un très très bon.
C'est un bon engrais.
C'est un très bon engrais. Mais Mel, je t'invite à regarder.
Ça me rassure,
parce que vraiment, d'un point de vue des. Là, alors, j'entends déjà le roucoulement. Là-dessus parce que les personnages sont beaux.
Oui, okay.
Les persos sont beaux. Il faut savoir que, alors ça fera forcément râler certaines personnes que bon, bah écoutez, râler si vous voulez, je m'en fous. Chacun des personnages a son propre, a ses propres pronoms. Du coup, il y a des they, them, il y a des.
Ah, mais c'est trop bien.
Mais non, mais tu comprends, parfois les mots
peuvent.
Ouais, bref. On a fini pour les dernières sorties et maintenant on va parler rapidement de la critique d'un jeu qui m'a marqué. On va parler de. Stellaris. C'est un jeu Paradox et pour faire très très rapide, Stellaris c'est un 4X. Est-ce que vous savez ce que c'est un 4X?
C'est comme un triple A mais c'est avec 4X.
Pas du tout, c'est un style de jeu qui est un style de grande...
3X c'est pas le bon site. Hein.
Oui, non, c'est pas le bon site non plus. Mais c'est un jeu du coup de gestion et qui en gros pourrait, en anglais c'est Explore, donc le X de Explore, Expand, Exploit et Exterminate. Dans l'ensemble, c'est tout simplement, pour ce qui est de Stellaris, c'est un jeu où tu crées ta race dans l'espace et le but, c'est de devenir le roi de l'univers. Tu peux y aller soit par le commerce, soit par la diplomatie, soit par la méthode qui est souvent la plus jouissive, la guerre.
Donc évidemment, il a pris le commerce.
Oui. Ah non, mais alors, faut savoir que j'ai gagné une partie en commerce, une partie en diplomatie et jamais de partie par guerre parce que...
Bah tiens, comme c'est bizarre.
Parce que...
C'était pour donner bonne conscience.
Ouais.
Ouais.
Mais et du coup le jeu, faut savoir que bah Paradox est connu pour ce genre de jeu. De base, je suis un très très gros joueur de Crusader Kings, j'ai genre plus de 300 heures dessus. Et bah le jeu était très cool mais il commence dès que tu commences un peu à comprendre les bases, bah c'est assez voilà, facile. Si on devait résumer, Crusader Kings, c'est de la politique humaine très intime, basée sur une dynastie, les mariages, les meurtres de tontons et de la religion et beaucoup d'inceste.
Les mariages quoi.
Stellaris, ce serait plutôt genre de la grosse macro-gestion à l'échelle d'une galaxie entière parce qu'on commence sur une planète, puis après il faut aller coloniser les autres planètes, puis après tu rencontres tes voisins et parfois tes voisins, c'est des gros champignons qui sont une conscience collective et qui se déploient en parasitant des autres espèces. Bon, dans ce cas-là, t'es un peu en mode pas chaud si on les brûlait.
Oh, l'échange universitaire étrange.
Très étrange. Il faut savoir que du coup, quand tu crées aussi ta race, t'as beaucoup en fait de choix entre tes origines, à quoi ressemble ta race, quels sont ses traits, comment est-ce que du coup elle va interagir avec les autres personnes, quelles sont tes coutumes, comment est-ce que tes personnages vont interagir entre eux, du coup même inter-espèces. Tu peux très bien jouer des hommes cailloux. Et d'appeler ça la congrégation du caillou avec un K, évidemment. Qui, du coup, à chaque fois qu'il apparaît sur une planète, a un truc qui s'appelle la forge volcanique. Et en gros, t'arrives sur une planète, la planète elle est belle et tout, bah tu la transformes en planète volcanique. Et tu détruis tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Déforestation.
J'ai un ami qui a transformé trois quarts des planètes de la galaxie en planète volcanique, ce qui fait qu'il y a peut-être eu un génocide de Max de beaucoup d'espèces. Mais est-ce que c'est grave si la congrégation Gaïu a gagné? Je ne pense pas.
Je ne sais pas, parce que les champignons étaient très désagréables, il faut le dire.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est qu'un champignon sur un caillou, de la moisissure?
Exactement. Mais je suis pas encore un très très gros joueur, j'ai peut-être genre 60, 70 heures, 80, peut-être 100 heures.
Ouais, sachant qu'une journée c'est 24 heures et que tu dors 12 heures, c'est pas mal. Hein.
Ouais, c'est pas mal. Mais bon, par rapport à ces 4-3, la punition est très violente. Tu peux par exemple trouver un gisement de cristal et dire que tu vas creuser un peu trop loin. Et tu vas avoir un petit pop-up avec dire vous avez creusé un peu trop profondément dans la caverne et il va y avoir un. Alors, c'est pas un balrog.
Parce qu'on n'a pas
les droits, mais c'est, ils appellent ça une plaie ou un cataclysme, comme ils appellent le balrog, qui sort du coup de ta mine et qui t'encule ta race. Et ta partie, elle est terminée. Parce qu'en fait, t'es au début de partie, t'as une armée à 2000. Le balrog, il a 17 000.
Balrog, dans ce cas.
Le balrog. Et tu peux aussi tout simplement tomber sur sur quelqu'un qui va être xénophobe, impérialiste et fanatique, et du coup quand il va te voir il va te traiter d'hérétique. Alors lui malheureusement c'est une IA qui t'avait paramétré en forte, parce que t'es assez bête pour mettre une IA en forte sur ta première partie, et elle va te rouler dessus. Et c'est même pas genre en mode réduire en mode tu étais mon vassal, non tu n'existes plus. Et bah, fin de partie. Et le dernier truc aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des empires dormants, qui sont des empires qui, par le passé, avant le début de la game, ont été très forts, et qui là, maintenant, bah, ils dorment, ils sont chill. Et bah, par contre, si tu viens leur chercher des noises, bah, ils... Voilà. En règle générale, ils sont xénophobes, autoritaristes.
Mais endormis.
Et pour finir, quand t'as fini une partie, donc quand t'arrives environ dans la toute fin, donc c'est plutôt vers, je crois que c'est genre vers l'an 3400-3600, tu as ce qu'on appelle une menace de fin de partie, et ça peut être tout et n'importe quoi. Et si tu survis à cette menace, tu as gagné la partie. Si tu meurs à cette menace, bah bravo, tu es mort. C'est un jeu qui est dur. C'est un jeu qui est vraiment dur. Il faut vraiment beaucoup de temps à jouer. Je pense que si t'es pas vraiment prêt à jouer, bah il faut pas commencer, parce que l'IA est dure, l'IA est intelligente, l'IA est vraiment forte. Et sincèrement, j'ai commencé un peu à jouer bien un jeu au bout de 40 heures de jeu.
C'est beaucoup en vrai.
Ah, c'est beaucoup, hein. Mais après, j'ai beaucoup joué avec des potes, donc forcément, j'ai pas vu le temps passer. Je viens de voir justement le temps passer. Et du coup, je vais juste vous demander est-ce que le jeu vous tente? Mel, je suppose que non.
Non, pas trop.
Claire?
En fait, moi, le problème, c'est que si je dois me battre contre les gens directement, ça va me faire peur. Donc, il y a un monde où c'est beaucoup de critères et je peux pas faire de side quest, tu vois.
Oui.
Après, je suis beaucoup en train de jouer à Kingdom en ce moment, qui te force forcément à être vachement plus stratégique, parce que Kingdom to Crown prend en compte toutes. C'est pas genre t'arrives sur une île, tu passes jour 1 et c'est très facile. C'est genre t'arrives jour 105 sur une île, tu te fais défoncer ta mère dès la première nuit, et au final, ça a quand même ce petit côté satisfaisant quand t'as réussi à bien planifier ton truc de tester. Donc à voir si je finis Kingdom to Crown, si je me mets pas là-dessus, tu vois.
Si tu dis bien, on y jouera ensemble évidemment, et on pourra se mettre en allié, comme ça au moins on est sûr de pas se...
Non, en ennemi.
Non, mais
en fait, j'ai juste peur que je gagne.
Je pense que c'est ça.
On peut jouer
t'es
des arcs aussi.
Forte.
On peut jouer des arcs qui sont là tout simplement une espèce qui mange des autres espèces pour évoluer. Et du coup, voilà. Victoire par politique, évidemment. Mais du coup, c'est la fin de cette chronique. On va tout de suite commencer cette petite pause musicale avec Claire ou Mel. Je peux vous laisser le dire aussi. Hein. Ah. All We Are de.
Voilà, merci. L'anglais et moi.
Sur Infinity Nikki, et qui, du coup, en règle générale, sont très cool.
Vous allez kiffer.
À tout à l'heure.
À toutes.
Tout de suite.
qu'on est de retour. Est-ce que la musique vous a plu? Et on va tout de
oui
suite...
Oui. Pardon.
On le sait, Toamel, on le sait. Mais du coup, ça va aller tout de suite du coup, avec Toamel et ta chronique. Et du coup, ce sera en bric-à-brac qui n'est pas avant la fin du...
Oui, bric-à-brac ou un peu catégorique. Actuel. Qu'est-ce qu'on lit aussi
oui. C'est un peu un mélange...
Voilà, c'est un peu un mélange en fait entre modernité. Non, je rigole. Bref, on va parler bibliothèque virtuelle, mais plus encore, on va parler surtout de carnet de lecture virtuel. Alors, je suis tombée il y a quelque temps, il y a peut-être 2 mois maintenant, dans une petite obsession sur justement ces petites
bibliothèques.
Voilà, oui, ben moi je marche beaucoup aux obsessions. Cette obsession en fait, c'est de lire, de catégoriser mes bibliothèques, ma bibliothèque physique que j'ai chez moi, de la mettre sur des applications ou des sites, et de faire la mise à jour de tout ce que j'ai lu ou pas encore lu.
C'est génial.
Et en plus de ça, du coup, de pouvoir critiquer les livres, parce que oui, ces bibliothèques virtuelles permettent de poster des critiques, parce que c'est un côté réseau social. Parmi ces applications, moi, ma préférée, je pense que c'est Babelio. Il y a Glyph aussi, qui sont 2 applications que vous pouvez retrouver sur téléphone et aussi sur des sites Google. Pardon. Il y a aussi Bookshelf, mais il y a aussi des sites, notamment les 2 plus connus, qui sont Booknode et LivreAddict. J'aime beaucoup LivreAddict aussi. Et en fait, tout ce qui rassemble ces applications et ces sites, c'est vraiment la passion de la lecture. Et ça a un côté vraiment un peu réseau social où on se crée un compte, on publie nos lectures, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. On peut critiquer, même pas, on n'est pas obligé de laisser de commentaires. Ça nous permet de découvrir des livres, ça nous permet... d'avoir des avis différents sur nos lectures. Par exemple, moi je sais que il y a une lecture que j'avais beaucoup aimée et j'ai remarqué qu'en fait sur certains des sites c'est pas pareil. En fait, par exemple sur Babelio, les critiques sont beaucoup plus positives par exemple que sur Booknode. Et en fait, c'est bien parce que du coup, ça permet d'avoir une grande diversité. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut voir les critiques des autres. Et en fait, les liker, commenter, etc. Et ça permet en fait d'avoir ce petit côté échange qui, comme moi par exemple, personnalité introvertie et angoissée de la vie et et des relations sociales, ça permet quand même d'échanger par exemple plutôt que d'aller dans un club de lecture en physique, parce que même si je rêve d'aller dans un club de lecture, je n'y arrive pas. Voilà. Et du coup, en fait, c'est un peu mes petits clubs de lecture, mais virtuels. Et c'est vachement sympa parce que du coup, en fonction des sites, on n'a pas forcément les mêmes retours, on n'a pas forcément les mêmes avis. On peut retrouver ce côté très différent. Par exemple, Booknode a ce côté un peu plus impersonnel, un peu plus... c'est presque froid, mais en même temps, c'est très sympa, mais ça a presque un côté professionnel, en fait, Booknode. Alors que LivreAddict, ça a ce côté un peu plus chaleureux. Babelio aussi, ça a un côté... c'est un mix entre un peu sérieux et en même temps chaleureux. Sachant que Babelio, comment expliquer ? Babelio... un grand panel de diversité, et notamment ils font beaucoup d'événements, notamment il y a des pique-niques de lecture dans plusieurs villes, notamment il y en a un à Nantes, il y en a à Bordeaux, il y en a un peu partout en France.
C'est super pour les introvertis.
Ouais, très super pour les introvertis comme moi. J'ai la notification à chaque fois que je me connecte sur Babelio, et à chaque fois je suis là, j'irai pas du coup. Mais du coup, c'est super chouette parce que du coup, il y a des événements, mais ils ont aussi... Alors, pour être sélectionné, il faut y aller, hein, parce que moi, ça fait 2 fois que j'essaye, ça fait 2 fois que je suis pas sélectionnée, mais ils ont tous les 1 mois et demi à peu près, ils ont une sélection de livres. Tu votes pour ton livre et en fonction de s'il y a assez d'exemplaires, etc., ils t'envoient gratuitement, et en retour, tu fais une critique sur Babelio de ce livre. Et en fait, en soi, tu n'es même pas obligé, je crois, de faire une critique. Si, voilà. Mais ouais, du coup, tu peux recevoir des livres, les livres de ton choix, en fait. Et puis voilà. Alors moi, ça fait deux fois que j'essaye, deux fois que je suis recalée. Mais je perds pas espoir. Et en fait, ça a des thèmes. Il y a eu le thème jeunesse et le thème bande dessinée, il me semble. C'est super sympa et c'est très large, effectivement. Ils mettent en avant aussi des autrices, des auteurs, enfin. Il y a plein de trucs comme ça sur Babelio. Glyph aussi met un peu en avant certaines actualités, etc. Booknote, pareil. Livre Addict, pareil. Mais Babelio, c'est vraiment celui qui se centre le plus sur les relations, j'ai l'impression. Après, ce qui est bien avec Booknote et Livre Addict, c'est qu'il y a des forums. Et du coup, t'as plein de forums différents. Tu peux parler de... Tu peux parler de lecture commune, il y a plein de trucs hyper intéressants. T'as même, il me semble, sur Libre Addict, des concours d'écriture parfois. Donc c'est vraiment très sympa. Le seul truc qui, moi, me frustre avec Libre Addict, c'est que tu peux pas faire de longues critiques. Donc du coup, t'es limité, je crois, à 500 caractères ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très peu, donc... Mes critiques sur Babelio sont beaucoup plus longues. Sur Glyph, pareil. Mais par contre, sur Libre Addict, je suis obligée de couper à chaque fois. Et je suis là un peu...
C'est peut-être lié au côté moins professionnel aussi, comme tu disais.
C'est ça. Oui. Et du coup, ça rend quand même le côté un peu plus réseau social, finalement, avec cette limite un peu comme on avait... Je crois qu'il y a toujours même peut-être sur Twitter, je sais plus.
Non, mais ils ont tiré la limitation de caractères sur Twitter.
Ok, bon.
Sur X.
N'allez pas là-dessus.
Non, n'allez pas là-dessus. C'est pour ça que je suis pas très sûre. Mais ouais, du coup, il y a plus ce côté rapide et vraiment réseau social sur Livre Addict. Babelio, c'est un peu pareil, mais c'est plus long, donc c'est plus sympathique. Glyph aussi, c'est très très sympa. Et en fait, ce que j'aime dans ces sites et ces applications, c'est qu'en fait, ça permet de répertorier tous les livres qu'on a.
Ouais.
Donc déjà, ça permet de faire le tri. Ensuite, tu peux te fixer des objectifs. Et moi, ça m'aide énormément, mine de rien, pour me lancer dans la lecture. Parce que du coup, ça, par exemple, sur Babelio, j'ai fixé à 20. Alors d'abord, j'avais fixé à 10 mes lectures. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en 2 mois, j'ai lu 12 livres. Donc en comptant manga et BD, bien sûr. Mais du coup, j'ai augmenté mon défi, parce que du coup, je me suis rendu compte qu'en un mois et demi, j'avais déjà fini mon défi. Et du coup, en fait, mon défi de l'année là, ça sera 20 livres, et je pense que je vais les atteindre largement. Et du coup, en fait, c'est super sympa parce que ça motive à lire, et le fait en fait de pouvoir partager son avis et en fait de parler de ses lectures à des gens qu'on connaît pas forcément, etc. Mais qui partagent la même passion que nous. En fait, ça donne ce côté vraiment très motivationnel, en fait. Et moi, qui ai besoin un peu de motivation dans la vie, ça m'aide énormément pour la lecture. Et je sais que Bookshelf, par exemple, qui visiblement claire là sur il me semble que c'est plus anglophone.
Je crois
que
c'est un côté un peu moins communautaire, pour être honnête. Bookshelf, moi je l'utilise vraiment juste parce que j'ai ma collection d'Agatha Christie et que du coup j'ai pas envie de me récupérer autant de livres. Après, l'application est en français, tu vois, quand je vais dessus direct elle est en français. Et t'as quand même ces petits mots clés, tu peux quand même te laisser un petit avis et t'as l'avis des gens que tu peux voir. C'est juste vraiment pas une fonctionnalité que moi personnellement j'utilise. Parce que je sais pas, j'y pense pas. C'est plus genre je me dis, est-ce que je l'ai lu ou pas ce livre? Est-ce que je l'ai ou pas? Et j'aime bien le côté où quand tu cliques, tu peux être en mode, ah, je l'ai prêté le livre aussi. Et ça, c'est pratique. Ça, j'avoue. Et il y a la possibilité de faire des tags soi-même.
Oui.
Et ça, j'avoue que moi, c'est le truc que j'ai le plus aimé dans justement Bookshelf. Et que j'ai pas toujours dans les autres. C'est vraiment le truc de dire que je me fais mon tag. Ça, c'est mes trucs plus enquête, machin et tout. Plutôt que de mettre les genres que les trucs mettent de base, ça permet parfois de mettre des bêtises, de dire celui-là, c'est machin qui me l'a acheté. Si j'ai envie de faire un retour à la personne, je peux.
Oui. Tu ça peux te créer sympa. Ta petite
Ouais, c'est ça. Après,
ta petite playlist, en gros, où tu
c'est
dis
ça, ouais.
faire un retour à machin de ce livre. C'est et bien sur Babelio, tu peux créer justement aussi tes propres tags. Il me semble que sur Glyph aussi, sur Livre Addict, je crois pas, mais parce que Livre Addict a vraiment ce côté plus réseau social que bibliothèque. Alors que Babelio, t'as vraiment ce truc visuel dans le sens où. Ou quand tu cliques sur ton compte, t'as vraiment les livres que vous avez lus, les livres que vous possédez dans votre bibliothèque, vos catégories personnelles, etc. Donc en fait, c'est vachement bien parce que du coup, bah, c'est ultra visuel. Moi, je me suis rendu compte que j'avais plein de livres dans ma pile à lire, par exemple, que j'avais jamais lus et que je devais lire et que bah, j'avais jamais lu parce que bah, ils traînaient au fin fond de ma bibliothèque. Ouais. Et puis, bah, au final, bah, ça m'a permis de lire et tout ça. Et en fait, c'est trop bien. Et Glyph a aussi ce petit côté. Alors, Glyph, le petit truc esthétique que j'aime en plus, c'est que tu peux mettre un titre à tes critiques. Et c'est tout con, hein. Mais du coup, tu vois la différence de la différence que les gens font pour poster leur publication et leurs critiques. Par exemple, sur Glyph, c'est très travaillé avec des petits emojis. Les gens ont ce côté un peu plus mignon, etc. Alors que sur Babelio, c'est vraiment plus...
C'est formel, quoi.
C'est un peu plus formel. Et BookNote, n'en parlons même pas. BookNote, c'est vraiment très formel. Mais ouais, sur Glyph, c'est, tu vois, t'es... Par exemple, moi, j'ai lu Vampiria. Du coup, bah, mon titre, j'ai mis deux petites gouttes de sang et j'ai mis le titre, voilà. Et en fait, tout le monde fait ça, en fait. Et c'est hyper mignon. Ouais. C'est trop chou, en fait, de voir ces petits emojis que tu n'as pas la possibilité de mettre sur Babelio, par exemple.
Ouais, ouais.
Et du coup... Ben en fait, c'est trop bien ce genre d'application et c'est vraiment ma petite obsession du moment parce que vraiment, du coup, quand je lis un livre, je suis là, ah, je vais faire ma petite critique sur Babelio. Donc, du coup, j'écris après, je fais, ah, je vais le poster sur Glyph et puis après, je vais faire, ah, je vais poster sur Livre Addict. Mais du coup, je dois rechanger ma façon d'écrire parce que sur Livre Addict, eh ben, c'est limité. Du coup, je dois
retravailler
mon texte.
Mais après, ce qui est sympa, enfin, les seules questions que j'ai, c'est pourquoi t'en as plusieurs applications, du coup? Est-ce qu'il y a, pour toi, un vrai but à en avoir plusieurs?
Ouais, parce que du coup, bah, comme j'ai dit, en fait, chacun a son truc un peu différent. Ouais. Livre Addict pour son système un peu plus rapide et un peu plus réseau social. Babelio pour son côté un peu plus chaleureux et en même temps pour tout ce côté découverte, etc. Glyph pour ce côté un peu plus esthétique, un peu plus mignon, plus visuel, etc. Et BookNote, j'avoue que BookNote, c'est celui que j'utilise le moins pour l'instant parce que justement, ce côté un peu plus froid et impersonnel. Mais je pense que je vais l'utiliser quand même parce que c'est vraiment très intéressant. Okay. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment au début je me suis dit ouais, je vais me mettre que sur Babelio, mais en fait je me suis dit ah ouais, mais il y a des gens que j'aime bien leurs critiques mais qui sont que sur Livre Addict. Du coup, bah je vais aller sur Livre Addict pour suivre leur avis à eux. Et du coup, en fait, parce que du coup, des fois, je suis par exemple des bookstagrammeuses, comme on dit, ou des book tiktokeuses, etc. Et en fait, elles sont pas toutes sur les mêmes plateformes. Mmh. Et en fait, je trouve ça pertinent d'avoir comme ça plein d'applications différentes. Et ça permet en fait d'avoir plein de points de vue différents. Et c'est pour ça que voilà, j'ai ma petite obsession du moment, c'est d'en avoir plusieurs.
En vrai, tu m'as convaincu.
Bah franchement, c'est grave bien et c'est grave motivant, je trouve, pour la lecture. Et même pour ceux qui aiment écrire, moi je sais que j'adore écrire et j'adore parler de mes lectures. Bah du coup, en fait, c'est bien de pouvoir même de pouvoir commenter les critiques des autres, etc. Et de se dire ah ben voilà, tu m'as ouvert les yeux sur tel personnage ou quoi. Bah franchement, c'est trop bien.
Non, tu m'as convaincu. Bah écoutez, j'espère qu'on vous a convaincu, que Mel a pu vous convaincre.
Du coup, si vous faites partie de la team Babelio, Glyph, Livre Addict, BookNote, sachez que vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Kezial, K-E-Z-I-A-L. Voilà. Okay. Tout simplement. Et n'hésitez pas à suivre. Et puis voilà, comme ça, on pourra échanger sur nos lectures.
Voilà, Claire, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Non, je suis contente d'en parler parce que du coup, on n'a pas la même vision du truc, donc c'est chouette. Au contraire.
Bah, ouais. Du coup, on va faire la deuxième pause musicale.
Oui.
On va écouter 7 Minutes de Natsu Dadai. Dai Dai. Et on se retrouve juste après. À tout à l'heure.
À toutes. À toutes. La, la, la. Alam la la.
On est de retour. Et sans plus tarder, on va tout simplement vous laisser avec la... Attends, juste avant, c'était 7 minutes de Dai Dai.
Natsu Dai Dai.
Oui, Mel. Oh, ben, vous êtes sur Radio-G 100.5 FM et vous écoutez Pop Flash.
Oui.
Et voilà, et me voilà pour la petite actu et petite discussion sur Obi. Et je pense que Obi ne figure pas dans les noms les plus connus du monde pour les gens qui ne font pas de crochet, donc je vais me permettre une petite présentation rapide, mais sachez que cette chronique est en mode chip. C'est ça qui est important de retenir.
Spill the tea.
Donc Obi, qu'est-ce que c'est? Obi, c'est une plateforme spécialisée dans la vente et de croches et de crochets et de matériaux et de patterns. Ça s'adresse principalement aux gens qui font du crochet et du tricot. Et l'idée, c'est qu'effectivement, Obi, c'est une entreprise danoise depuis 2015 qui était assez populaire et assez connue pour tout ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que c'est pas juste une entreprise qui vend des choses, mais qui est aussi assez communautaire dans son approche. C'est une entreprise qui travaille avec à peu près avec à peu près 350 designers et qui vendait à peu près 16 500 modèles. Donc quand je dis modèle, je dis pattern, c'est-à-dire petit patron de crochet, que ce soit justement du crochet ou du tricot. C'est juste qu'évidemment, moi, faisant uniquement du crochet, je ne peux parler que le côté crochet. Je sais que, par exemple, d'expérience, j'avais déjà pu travailler et passer avec Obi parce que justement, en fait, quand vous cherchez de la laine, c'est vraiment la première chose qui revient, que ce soit par les pubs, par la recherche de Google directement, où ils payent forcément Google pour passer en premier. Et c'est assez connu en règle générale parce que justement, ça ne parle que de ça, ça ne s'adresse qu'à ça. C'est pas comme genre Amazon qui peut vendre de la laine, mais pas uniquement. Là, c'est vraiment un spécialiste. Donc ça permettait facilement d'avoir accès à ça et c'est pour ça qu'il est assez connu. En 2022, Obi s'est fait racheter en partie par une entreprise qui s'appelle Verdan, qui est le plus gros repreneur d'entreprises européens à peu près. Ça s'adresse surtout à des entreprises qui sont en difficulté mais qui se développent bien. C'était le cas de Obi, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas forcément beaucoup de rentrées d'argent, mais ils avaient un bon suivi des clients. Donc évidemment, ils ont été repris. Quand ils ont été rachetés, l'entreprise Verdan s'est engagée à rendre plus accessible la laine sans compromettre la qualité. Donc on avait essayé déjà un petit peu de rassurer les gens qui achetaient et qui font du crochet, donc ont besoin de matériel de qualité, en leur disant vous en faites pas, ce sera moins cher, mais on va pas rogner sur la qualité de la laine que vous pouvez acheter, ce qui est littéralement le seul matériel dont vous avez besoin pour faire du crochet. Donc évidemment c'était important parce que on parle quand même d'une entreprise qui fait plusieurs types de laine, qui a plusieurs origines, plusieurs matériaux, parce que quand on dit laine, on pense à la laine de mouton, c'est pas vraiment le cas. La plupart du temps, quand vous faites du crochet, vous travaillez soit avec du synthétique, soit avec du coton. Vous pouvez aussi travailler avec des matières avec un petit peu d'élastane. Et il y a certaines laines qui existent, qui possèdent des pompons. On parle aussi de laine un peu fluffy ou de laine un petit peu poilue, qui sont très sympas et qui, elles, par exemple, ont beaucoup moins de coton parce que c'est pas véritablement fait pour, par exemple, de l'habillement. C'est assez large comme sujet en termes de vente. Ils proposaient des patterns, donc des patrons qui étaient pour les animaux, pour faire des petits vêtements, pour des sacs, de l'accessoire. C'était vraiment un site qui proposait des choses assez larges. Donc quand ça a été racheté, les gens se sont dit bon, peut-être que ça va juste être une refonte de l'entreprise, de l'organisation, en tout cas de l'entreprise, pour pouvoir faire un petit peu plus de revenus. Et quand je vous disais que du coup c'était pas que de la vente, c'est-à-dire que Obi est assez connu pour faire des bingos en live. Toutes les semaines, on peut trouver tous les jeudis en fait précisément à 10h, vous pouviez faire du loto et gagner de la laine. Donc on avait Matt qui faisait partie du côté un peu social media, qui était super connu parce qu'il animait un petit peu la séance et il y avait plein de gens qui faisaient leur crochet et qui en même temps suivaient le live de Obi, ce qui fait que pas mal de clients faisaient confiance en fait à Obi. Parce qu'on travaillait avec leur laine, parce qu'on regardait leurs trucs pour gagner plus de produits. Donc ça crée un vrai écosystème où en fait les gens s'en mettaient pas à aller voir d'autres choses ou parfois passer même en boutique. C'était bien plus simple de commander et de directement suivre un peu les petites émissions et tout ça. On se sentirait un peu mal de faire un bingo sur Obi pour gagner des produits gratuits si on est passé par un autre magasin en même temps. Mais donc c'est pour ça que c'était assez connu. Et ils avaient même un petit système de partenariat avec des créateurs où en fait c'était vraiment plutôt Obi qui te donnait de la laine pour réaliser un projet sur un thème et qui du coup te donnait la laine gratuitement et toi ça te permettait d'avoir de la visibilité. Vous savez où je vais en venir au fond, mais voilà, de la visibilité. Et toi t'avais pas à payer la laine de ton projet. C'était quelque chose qui était plutôt intéressant, mais il faut savoir que les créateurs n'étaient pas forcément payés pour ce qu'ils faisaient, sachant que le crochet c'est quelque chose de très, et d'ailleurs le tricot aussi, c'est quelque chose de très long à faire. Ça prend des heures, ça peut prendre des jours, des mois, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi je sais que dans mon cas, je suis pas quelqu'un de trop lent en crochet parce que ça fait à peu près 5 ans que j'en fais. Je peux vous dire qu'un pull ça me prend mais des semaines parce que c'est beaucoup de choses. Il faut tester comment la matière réagit, quelle taille on veut faire, et puis ensuite voir combien de quelles mesures on doit appliquer pour ça, pour que ça rentre parfaitement avec sa laine. Donc c'est beaucoup de travail. Donc c'est un art long, et les pauvres créateurs, tout ce qu'on leur donnait, c'était des deadlines, la laine gratuite et le thème, il fallait le suivre. Et vraiment, il y avait des posts obligatoires à faire sur les réseaux sociaux pour pouvoir honorer le système de parrainage. Ils avaient aussi le droit à 10% de commission si on suivait le lien affilié, mais c'était vraiment basta, c'était tout. Donc c'était pas un énorme sujet. Enfin, on n'était pas vraiment sur une grosse paye. La plupart avaient une dizaine d'euros grand maximum. La plupart des créateurs qui font du crochet ou tout ce qui est art textile, la plupart du temps sont plutôt payés par des dons, en fait, quand c'est le cas, ou des gens qui achètent leurs produits directement. C'est pas le modèle économique le plus stable, et pour une grosse entreprise comme ça, les gens étaient un petit peu rebutés, quoi, il faut le savoir. Et c'était un petit peu tout, effectivement. D'ailleurs, pour faire un petit point, parce que je me doute que tout le monde n'est pas très familier avec le crochet, généralement, quand on paye des patrons, en tout cas sur Hobby, on était sur 7 euros à peu près le patron pour une robe, 5-6 euros pour un bonnet avec plusieurs tailles. Parce que forcément, évidemment, qui dit crochet dit que les mesures sont censées être quand même sur du sur-mesure. On est la plupart du temps sur des tailles entre du S et du XXL, par exemple, où vraiment, c'est un peu à vous de faire avec vos mesures, sinon. Donc à chaque fois, les artistes vous laissent toujours le calcul à faire. Et sur les prix, on était environ à 2,99 pour les 100% coton. On avait à peu près 50 grammes. Par exemple, en France, on peut acheter de la laine sur Zeman, qui produit ses propres pelotes de laine et qui a des usines et tout ça à l'étranger, évidemment, malheureusement. Eux, c'était plutôt sur 1 euro, 2 euros à peu près pour 100 grammes de laine. Donc on était sur une échelle un petit peu haute. Mais ça restait pas trop excessif, parce que ça reste souvent un passe-temps pour les gens, et quand on en fait une activité professionnelle, on passe très peu par des sites comme Hobby. C'est vraiment plus vers les gens un peu fans. Et donc ça, c'était pour ça. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que le CEO de Hobby a posté quelque chose sur LinkedIn d'adorable, où la première phrase c'est « In Hobby, we use a lot AI ». C'est-à-dire « Ah, chez Hobby, on utilise beaucoup l'IA ».
Attends, il a fait ça quand ?
C'était il y a un mois à peu près. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont vantés joyeusement d'avoir mis une image générée par IA dans leur poste. Donc vraiment, vraiment, mais très zen, hein, il faut le dire. Hein. Vraiment.
Mais
très,
il a quel âge, ce monsieur,
content.
Genre c'est.
On est sur des gens d'une cinquantaine d'années. C'est pas des gens extrêmement jeunes, c'est pas des gens extrêmement vieux. Et il faut savoir qu'il y a aussi Verdan maintenant qui est au contrôle de l'entreprise. Donc c'est assez large. Et en fait, ce qui a créé le scandale à peu près d'il y a un mois, c'est que leur poste n'est pas du tout clair sur leur utilisation de l'IA. Ils disent juste que c'est pour booster l'efficacité. Mais qu'est-ce que ça veut dire booster l'efficacité dans une entreprise qui te demande de prendre en photo des patterns, de prendre des patrons en photo ou des résultats en photo, des photos de pelotes de laine? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est plutôt sur les data, sur tout ce qui est donné, d'écrire combien il y a de ventes, ce genre de choses? On ne savait pas. Et on n'avait aucun retour là-dessus. Beaucoup de gens, évidemment, se sont un petit peu énervés dans les posts du LinkedIn en disant « Bon, vous êtes très gentils, mais s'il y a des gens qui se fichent pas mal de l'efficacité et de gagner du temps, c'est vraiment des gens qui passent des heures à faire des projets en crochet et en tricot. Regardez-nous, on peut passer des semaines sur un pull. » D'accord ? Donc c'est vraiment pas grave si vous n'êtes pas si efficace.
Oui.
Et prendre du plaisir tout le long en regardant une très bonne série et en se trompant sur probablement le patron 4 fois pour faire voir se tromper de couleur de laine. Et ça aussi c'est important. Donc en tout cas, les gens se sont vraiment plaints du manque de transparence. Et comme je vous disais, ils faisaient des lotos. Et bien qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, les gens en ont parlé pendant le loto. En demandant des retours. En envoyant des mails aussi. En disant mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et les seuls retours que Hobby a pu donner et... pauvre présentateur du loto, vraiment, on est avec eux, devait juste répondre « Mais vous savez, c'est pas parce qu'on utilise de l'IA que ça compromet la qualité de nos produits. On est toujours à l'écoute des propositions de nos clients et on entend effectivement tous vos retours. »
Bitch, c'est pas la question.
Ça ne répond pas à la question. Donc effectivement, pas mal de retours et beaucoup de plaintes parce que, en même temps, les prix ont augmenté. La qualité de la laine a baissé, ce qui était la promesse de 2022 que ça ne se passerait pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait littéralement l'inverse.
C'est-à-dire qu'ils ont menti.
Ils ont menti. Donc on a eu pas mal d'insatisfaction à ce moment-là. Et en fait, je pense que l'IA, ça a vraiment fait déborder le vase. C'était la petite goutte qu'il fallait. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est très très bon en communication et qu'on a mis un post pour des millions de personnes sur LinkedIn pour y répondre? On fait un post sur un groupe Facebook qui contient une centaine de milliers de gens. C'est à peu près un dixième, hein, n'hésitez pas à calculer pour moi. En fait, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont expliqué qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que c'était vraiment juste pour les données et pour modifier la couleur de certains projets pour montrer ce que ça pourrait rendre en autre couleur. Mais les gars, on parle de gens qui vendent de la laine. Si vous voulez montrer le projet rendu avec une autre couleur de laine,
bah vous prenez une autre couleur,
vous le faites. Parce qu'en fait, le problème, c'est que votre couleur, elle sera jamais la même que la vraie laine, puisque ce que vous mettrez en photo, c'est généré par IA. Et hormis le fait que déjà, l'industrie de la laine pollue beaucoup, notamment pour la couleur, notamment pour l'envoi et ce genre de choses, en plus de ça, vous utilisez de l'IA pour prendre des photos de produits qui n'existent pas, que vous n'avez pas créés, et vous allez tromper votre client comme ça. Et en fait, pas mal de gens sont revenus se plaignant récemment que, effectivement, en achetant sur Obi, leur laine n'était pas exactement la même couleur que ce qu'ils attendaient, qu'est-ce que c'était sur la photo. Et même si on peut comprendre que la luminosité dépend de chacun, et c'est particulièrement vrai en laine, parce que moi je sais que par exemple j'ai plusieurs couleurs de noir différents, dont un qui a un peu des lignes un peu rouges, et l'autre qui est noir très profond, et bah ça change tout effectivement. Oui. Évidemment, ça change tout. Mais du coup, là, ça devient problématique. C'est pas juste une question de luminosité qui change ou d'environnement qui change. On part sur une entreprise qui fait des photos générées par IA pour montrer des produits que les gens vont acheter et utiliser et dont ils vont dépenser du vrai argent, en fait. On part sur une vraie question morale dans ce cas-là où beaucoup de gens ont en fait décidé complètement de ne plus commander sur Obi. Et ça, c'était la partie... C'était pas la partie la plus immergée de l'iceberg. En fait, un article danois est sorti expliquant que Obi avait viré 50% de son personnel qui s'occupait de la partie social media et créatif. Et en fait, effectivement, des gens se sont mis à traduire l'article qui était payant et en danois. Donc je m'avoue ne pas avoir acheté un article danois payant, hein. Mais ils l'ont traduit et ils l'ont reposté. Et en fait, effectivement, ils ont viré plus de 50% de leurs employés du côté créatif, ce qui est vachement lié effectivement à l'utilisation probable de l'IA pour refaire des posts. Et ce qui n'arrange pas la situation, c'est qu'il faut savoir que petit à petit, les bingos sont très souvent annulés parce qu'en fait, ils n'ont plus de présentateurs disponibles puisqu'ils ont viré la moitié des présentateurs. Et Matt, qui était mon héros, mon roi, il n'est plus là, Matt. On l'a viré.
Rendez-nous Matt !
Il ne s'est pas exprimé et les pauvres créateurs qui font le bingo s'expriment vraiment très très peu. Ils ignorent juste les commentaires. Mais ça fait un vrai débâcle. Il y a beaucoup moins de vues maintenant sur leur bingo, beaucoup moins d'achats aussi sur leur site. Il y en aura évidemment toujours.